Bonjour, vous êtes sur Radio FM Plus, 91 FM, vous écoutez le fil du fer. Aujourd'hui, je reçois...
Eh ben non, aujourd'hui, tu reçois personne, Lionel, parce que ton invité n'est pas venu. Il a eu un empêchement, il n'est pas venu. Et alors, j'ai décidé de prendre le pouvoir, donc vous êtes à l'écoute du fil du fer. Mais c'est Hélène Bertrand-Féline, aujourd'hui, qui a pris le pouvoir. Et donc, mon invité, aujourd'hui, est Lionel Navarro.
Ah zut, mince.
Oh zut. Mince. Alors voilà, donc je me suis dit, le fil du fer, eh ben, on va se demander comment est-ce qu'on devient animateur radio, comment on devient chroniqueur radio à Radio FM+.
Comment on devient ? Oh, ça faisait un petit moment que dans ma tête, l'envie de faire de la radio, cette envie dansait dans ma tête. Et j'en parlais à Annick Delefosse, qui est aussi animatrice sur Radio FM+, et qui a l'émission Scénorama. Voilà, de cette envie, et puis elle m'a dit, oh, voilà, je lui ai proposé le concept de l'émission qui allait devenir le fil du fer. Elle m'a dit... écoute, on va en parler à Christian Malaplate et à Nathalie Bouly, donc les présidents et vice-présidentes de la radio, de l'association qui chapeaute la radio. Et ça a commencé. Et puis après, je suis parti aux États-Unis. J'ai été embauché aux États-Unis à l'École des Nations Unies. Et c'est à mon retour, 2 ans plus tard, en 2018, que j'ai pu lancer cette émission.
Parce que, en fait, tu es parti aux États-Unis parce que tu es enseignant. T'es parti enseigner là-bas.
Voilà, je suis parti enseigner. Je donne des cours en tant que professeur en lycée professionnel, lettres, histoire, géographie, éducation morale et civique. Et un peu d'autres choses, quoi. Aujourd'hui, on est polyvalent comme prof.
Et donc, à ton retour des États-Unis, tu as repris l'émission ?
Alors, j'ai repris le concept. L'émission n'avait pas commencé avant. D'accord. Mais en tout cas, j'avais commencé à en parler. Et puis, faire cette émission. Et peut-être tu veux savoir l'origine du concept ?
Absolument, j'allais te le demander.
Alors, on se connaît trop bien. On est sur la même longueur d'onde, toi et moi. C'est une bonne copine. C'est pour ça qu'on se tutoie. L'émission, donc le fil du fer, c'est faire F-A-I-R-E pour les actions. Je voyais que agir était important et ne pas agir pouvait l'être encore plus par rapport aux conséquences. Quand on n'agit pas, y a des conséquences psychologiques dans sa vie, dans ses émotions, etc. Et quelques années avant d'être allé, de partir aux États-Unis, j'ai vécu un an au Canada. Et là-bas, le faire est très important. Et puis la liberté de pouvoir faire et surtout de se dire, dans une vie, on peut avoir plusieurs vies. Et en France, c'était l'action, parfois, en tout cas du point de vue professionnel, si on vous dit vous avez un diplôme et vous allez avoir ce métier durant toute votre existence et parfois changer de voie, ouais, c'est mal vu. En tout cas, à l'époque, c'était mal vu. Et j'entendais mes élèves aussi qui me disaient « Mais monsieur, je ne sais pas quoi faire dans l'avenir, je passe tel diplôme, mais je ne sais pas si ça m'intéresse vraiment, etc. » Et donc, le fil du fer, faire entendre des témoignages de gens actifs, de personnes actives ou qui ont eu des projets, comment ils ont monté leurs projets, pourquoi ils l'ont monté, quel est le lien, l'articulation entre leur vie, leur éducation, leur caractère et puis ce qu'ils font ou ce qu'ils souhaitent faire, voilà. Donc c'était montrer des exemples, des témoignages.
C'est-à-dire des gens qui ont été dans l'action et aussi dans le changement du coup.
Oui, exactement. Pour donner... je pense qu'on est dans cette période aussi d'une génération où on voit moins d'un mauvais œil le fait de pouvoir avoir des ruptures. On dit disruptif, je crois, aujourd'hui. Mmh. Et de pouvoir lâcher prise et de se dire, j'ai monté un projet, il ne marche pas, je suis tombé, je me relève et je fais autre chose. Ou partir autour du monde, pouvoir se donner des opportunités, voilà, et de se dire que, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, on a des envies de faire et de ne pas se restreindre en écoutant le témoignage des autres qui passent
à la
radio.
Alors du coup, tu as des invités qui sont déjà avec des parcours de vie un peu singuliers, qui ont osé parfois faire des choses un peu originales, c'est ça? Le critère un peu de choix?
L'originalité, pas nécessairement.
Pas nécessairement.
Non, c'est quand je fais le choix des invités, c'est parce que je les ai entendus parler de leur projet, entendus parler de leur passé, sans que ça soit dans quelque chose d'intime. Mais je me suis rendu compte, par exemple, que il y a un fil rouge entre toutes ces personnes, comme il y a quasiment le même fil rouge pour les personnes qui décident de s'expatrier et de tenter une vie à l'étranger. Il y a un désir, il y a une force de caractère, une volonté. Et puis, quand je dis désir, c'est vraiment de se dire le désir de faire et aussi de vouloir quitter. Parce que je pense qu'il faut le vouloir aussi. Avant d'avoir les capacités, il faut le vouloir, de se dire ben, je me donne la chance de pouvoir réaliser quelque chose qui me tient au cœur.
Ne pas avoir peur aussi.
Ne pas avoir peur, oui. Je pense que toi aussi, dans ton propre parcours, tu as connu cela, de parcours professionnel ou parcours...
Oui, tout à fait. Des fois, prendre une décision radicale, en fait, en tout cas.
Ouais. Et réfléchie.
Oui, à la fois réfléchie, mais radicale, parce qu'elle ne se fait pas sans prise de risque. Par exemple, si tu décides d'aller vivre à New York, tu prends la décision radicale, par exemple, de partir loin de ta famille.
Oui, c'est ça. Partir loin, tout en ayant le réconfort de WhatsApp et de la...
Évidemment.
Ce qui ne signifie pas aussi... Il y a un éloignement. Ce que m'avait dit un thérapeute avec qui j'étais à l'époque pour soigner une énorme peine de cœur, qui m'avait dit, mais en fait, vous ne quittez pas, vous vous éloignez. Mm. Et ça a été aussi fondamental. D'entendre ça, que ce n'est pas quitter, pas une rupture, c'est un éloignement. Et qui dit éloignement peut dire aussi retour.
Voilà. Oui, tout à fait. Et puis, arriver à affronter quand même l'inconnu. Je pars dans un pays étranger à l'arrivée. Je sais que j'ai un travail, mais je ne connais pas mes futurs collègues. Je dois me faire des nouveaux amis, etc. Ça aussi, il faut oser.
Mais si on se met aussi à la perspective que, OK, c'est l'étranger... mais en France, si j'avais déménagé, bah, je suis prof, j'aurais très bien pu avoir une mutation, je ne sais où, voilà. Et même histoire, il a fallu que je refasse une vie. Et jeune adulte ou adulte, c'est compliqué de faire de nouvelles relations. Donc je suis parti sur cette idée de, voilà, ce n'est pas infaisable. Pour ajouter, c'est quand je suis parti au Canada, j'ai pris une année sabbatique, donc une année sans paiement, sans salaire, et mes collègues de l'époque, ceux qui s'exprimaient en tout cas étaient estomaqués positivement. Il y a eu un collègue qui me disait mais comment tu vas faire?
Comment tu vas manger?
Ouais. Et j'ai dit mais ça sera du pas à pas. Un pas après l'autre. Je verrai sur place et pendant cette année au Canada, j'ai traversé le Canada en sac à dos, j'ai découvert, voilà. Et le fil rouge, pour revenir au fil rouge par rapport aux personnes qui ont des projets, qui les mènent, qui se lancent, etc., c'est une immense curiosité. Curiosité pour eux-mêmes et pour les autres. Et quand je dis pour eux-mêmes, c'est savoir ce qu'on a dans les tripes, nos forces. Et dans la vie, on fait ça quasiment tous les jours. On dit oui au mariage, on dit oui au déménagement, on dit oui à plein de choses. Et on ne sait jamais ce qui se passe ensuite.
Tu les choisis sur quels critères, tes invités? Ou dans quelles circonstances? Comment ça se fait?
Alors parfois c'est dans mon réseau social. Voilà, peut-être qu'on en parlera, mais je suis dans le monde aussi du théâtre. Je suis curieux, je parle beaucoup, je m'intéresse aux autres, donc voilà, C'est-à-dire je rencontre des personnes.
Tu rencontres des gens et puis tout d'un coup, tu te dis tiens.
Ouais, je les entends parler. Où il y avait une invitée, c'était. J'étais en train de manger un hamburger et à côté de moi, j'entendais quelqu'un parler avec l'accent québécois et parler de jeux vidéo. Et je me suis tourné et levé. Et voilà, et c'est comme ça qu'après, il y a eu l'émission voilà, pour parler de tests de jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'être testeuse de jeux vidéo ? Voilà, c'est, il faut oser. Puis la communication aujourd'hui, elle est hyper importante.
Oui, tout à fait.
Tu étais orthophoniste.
Absolument.
Et donc, dans l'histoire de la communication, de pouvoir l'expression, de... la question de la voix, ce que tu fais avec ton émission Vox in Box, je pense qu'on se restreint beaucoup, même si on a soif d'aller vers l'autre, mais l'hyper-individualisme normé ou qui nous norme fait qu'on n'ose pas aller vers les autres.
Et, en tout cas, la société actuelle ne permet pas forcément cette mise en relation immédiate, le fait d'aborder quelqu'un pour parler, etc. On est peut-être plus de méfiance aussi. Ce qui n'existe pas forcément aux États-Unis, où les gens parlent très spontanément.
Oui, c'était rigolo. Pour les États-Unis, j'allais dans des bars et en fait... on parle, tout le monde est à peu près habillé pareil et on discute et après moi je m'aperçois que je suis en train de discuter avec un super PDG d'un super groupe de voilà de international voilà basé à New York, voilà ce genre de choses et les discussions sont agréables. Voilà. C'est très bien de garder.
J'ai un souvenir comme ça d'avoir été reçu dans un voyage professionnel à la Nouvelle-Orléans par le président de l'université de médecine de la Nouvelle-Orléans, qui était un monsieur absolument charmant. Et dans son grand bureau de l'université, il y avait un piano. Et donc, une fois qu'on a eu discuté, il nous a dit « Ah ben, pour vous accueillir, pour vous remercier d'être venu de si loin, il s'est mis au piano et il s'est mis à jouer du jazz, mais de façon absolument somptueuse. » Et il nous a dit qu'il avait une double carrière, en fait, qu'il était président de l'université, mais qu'il était aussi musicien et qu'il faisait des tournées en tant que musicien. Ça aurait été un bon invité pour le fil du fer.
Mais je me demande si toi aussi tu ne serais pas une bonne invitée parce que tu as plusieurs vies, tu peux les... Est-ce que tu peux en parler ? Ouais, tu vois, tu as voulu me questionner.
Ouais, alors je sors mon joker, on va faire avoir un petit intermède musical. Alors je trouve qu'il me correspond pas mal celui-ci, donc je te fais la surprise et puis William va nous le lancer.
Très bien, merci Hélène.
Comprenez bien que je ne comprends pas tout. Je ne sais rien sur le rien, encore moins sur le tout. Qui du soleil ou de la terre se tourne autour? Qui? Je l'oublie toujours. Moi je suis total à l'ouest. Moi petit bichon maltais, positif à la côte est. Ah c'est celui qui dit qu'il est total à l'ouest. C'est à l'ouest qu'on voit le soleil se coucher. Et c'est à l'ouest que tourne l'usine à rêver. Et c'est là que je suis né pour au troubadour. Non, sans trompette ni tambour. Mais plus tu iras vers l'est, tu te retrouveras à l'ouest. Tu t'avances et moi tu sais. Ah, c'est celui qui dit qu'il est total à l'ouest.
Total à l'ouest.
J'étais gamin, je ne savais pas que tout allait passer aussi vite que une vie de papillon, c'est deux jours environ. C'est court et c'est long quand on est total à l'ouest. Le temps est bien plus digeste sur qu'on me traiterait de niais. Oh, c'est celui qui dit qu'il est total à l'ouest. Bien sûr, tu ne vois rien, tu comprends rien, tu sais pas bien, mais au moins tu ne connais pas la vie de ces gens qui parlent en statisticien. De ces gens académiciens, total GPS, pas total à l'ouest.
Alors comme ça, tu es comme à l'ouest.
Ouais, des fois, je suis total à l'ouest. Et je trouve ça assez drôle. Cette chanson est très amusante. J'aime beaucoup Philippe Catherine, que je trouve extrêmement talentueux et beaucoup dans la recherche musicale, parce que je suis passionnée de musique. D'habitude, ce n'est pas trop mon registre. Je suis plutôt dans le baroque, mais j'aime beaucoup. Voilà, c'était un petit clin d'œil.
Mais je vais rebondir sur le clin d'œil, parce que là, je reprends ma casquette de du filifère.
Oui, reprends le pouvoir.
Donc, et toi, alors, tes vies?
Oh, mes vies. Ah, mes vies. J'ai eu une vie d'étudiante, une vie d'étudiante qui n'était absolument pas celle de mon choix. Puisque mon rêve absolu était d'être diplomate et je voulais faire Sciences Po. Et mes parents m'ont dit « tu fais des études qui sont sur place ». Donc, à Montpellier, il n'y avait pas Sciences Po. Donc, je crois qu'ils n'avaient pas trop confiance à ma capacité d'être étudiante sage loin de chez eux. Et donc, j'ai fait orthophonie un peu par dépit, parce que c'était rapide et que je voulais gagner ma vie. Donc, à 21 ans, j'ai commencé à travailler. Et puis, voilà. Et puis, je me suis quand même intéressée à ce métier qui est quand même passionnant. Et surtout, qui offre la possibilité de travailler dans des domaines très, très différents. Donc, j'ai eu une première vie d'orthophoniste où j'ai beaucoup travaillé dans le handicap, avec l'autisme. J'ai fait des formations avec l'autisme. Ensuite, parce que c'est quand même très fatigant, j'ai complètement changé et j'ai fait un DU en neuropsychologie clinique. Donc, j'ai eu une autre vie d'orthophoniste avec des patients neuro. Ça m'a énormément plu. Et comme en parallèle, j'étais passionnée par la musique, par le chant. Et je chantais moi-même. Donc, j'ai fait beaucoup de formations pour rééduquer les voix. Et j'ai fait un diplôme qui s'appelle Ostéovox, qui permet de soigner, de prendre en charge des gens. Donc, une grande partie de ma vie d'orthophoniste a été consacrée au chant et je me suis bien régalée. Et donc, j'ai arrêté l'orthophonie. C'est comme ça que je suis arrivée à la radio, par toi, parce que tu m'as dit « ouais, non, mais ça serait pas mal de faire ».
Arrête, ils vont croire que c'est qu'on fait de l'entrisme.
Non, je suis passée par le canal
de sélection.
J'ai présenté mon projet au président, à Christian Malaplate, à Nathalie Bouly, tout comme toi, j'ai présenté mon projet qui a été accepté. Mon projet étant de faire une émission consacrée à la voix. Et la voix
Vox in Box.
Voilà, Vox in Box. Une émission consacrée à la voix dans tous ses domaines. Et ça me plaît beaucoup. J'adore la radio.
Et pourquoi tu aimes la radio? Parce que tu as écrit. Tu as écrit aussi, enfin,
oui.
Voilà.
Ouais, j'ai été. J'ai eu une période où j'étais critique musicale à la Gazette. La Gazette de Montpellier, puis à Loco. J'aime l'écriture, mais la spontanéité de la radio me plaît beaucoup. J'adore ça, je trouve que c'est très... j'ai toujours travaillé dans la communication, donc je trouve cette communication-là très fluide. J'adore recevoir des gens, discuter, les interroger, être dans le dialogue, ça me plaît beaucoup.
Et quel est le timbre de... Enfin, le timbre, c'est pas le timbre, c'est la... quand tu es chanteuse, donc oui. Chanteuse lyrique.
Alors, c'est... je suis.
Corrige-moi.
Oui, enfin, je suis pas chanteuse lyrique. Chanteuse lyrique, c'est un terme qui, pour les professionnels, je suis chanteuse. Je chante du chant classique. Et ma tessiture, c'est mezzo-soprano.
Voilà, chercher le mot tessiture.
Voilà, ma tessiture de voix, c'est mezzo-soprano. C'est-à-dire que j'ai des aigus moins faciles que les soprani. Je monte, mais pas si haut. Et ma voix sonne dans le haut médium, mais je peux descendre dans les graves aussi. Donc, je chante beaucoup de musique sacrée, de baroque. Donc, voilà. Je suis dans un pupitre de soprane, mais je suis mezzo-soprano.
Et puisqu'on parle de la voix, l'orthophonie, c'est un chemin non choisi au départ, je ne sais pas comment le dire,
oui.
Mais après, c'est comme dans un mariage, on tombe amoureux de sa femme et de son mari en cours de route, durant le mariage. Donc, la voix et le métier, alors, et le chant. Tout.
Alors... En fait, je pense que c'est plus facile d'aimer un métier comme mari qu'on n'a pas choisi quand même, parce que quand on travaille en libéral, on a beaucoup de liberté, quoi qu'en disent les jeunes générations d'orthophonistes. Je trouve que c'est un métier dans lequel on est extrêmement libre, ne serait-ce que de choisir sa patientèle. Et la rééducation, la prise en charge de la voix, c'est absolument passionnant. Parce que on va intervenir auprès de gens qui peuvent avoir des pathologies très graves, qui ont par exemple eu un cancer du larynx, à qui on a enlevé une corde vocale, des gens qui ont été opérés de la thyroïde, il y a une section du nerf laryngé, ou du nerf récurrent, donc qui ont perdu leur voix. Il y a des gens qui ont une fatigue vocale chronique de par leur profession, comme les enseignants, par exemple. Et puis, il y a les gens qui chantent et qui se sont abîmés leur voix en chantant, les enfants qui crient trop, qui ont des nodules sur les cordes vocales. Donc, redonner la voix à quelqu'un, c'est un peu magique et c'est presque très psychanalytique parce que, surtout quand on chante, la voix c'est une obsession, c'est-à-dire qu'on peut, se réveiller le matin et la première pensée qu'on a c'est est-ce que ma voix est là ? Est-ce qu'elle est là ? Est-ce que je vais pouvoir sortir la note ?
Et alors, est-ce que tu la sors au réveil ?
La plupart du temps, je la cherche et je la trouve avant même d'être réveillé, d'être debout. Je suis allongée dans mon lit et je commence à faire des petits exercices et puis voilà, ça fait beaucoup rire mon compagnon parce que il me dit oui, ça va.
Il y avait aussi un point, on a des points communs. On a aussi une histoire qui nous rejoint, une histoire familiale. J'ai un grand-père, du côté paternel, mes origines sont espagnoles, par mes arrière-grands-parents avec ma grand-mère, et puis par mon grand-père qui était anarchiste, toute sa vie. Donc, qui est décédé, mais pensez à lui, anarchiste à la CNT Haït et qui est combattant contre Franco à 16 ans. Il a pris les armes et voilà. Et donc, avec la défaite et la retirada, il est venu en France. Et toi aussi, tu as une histoire.
Absolument. Moi, ma grand-mère maternelle était avec son mari directrice d'une école à Barcelone, qui était la seule école non religieuse de Barcelone à l'époque, qui était une école pour enfants d'ouvriers. Mon grand-père faisait l'école aux adultes, il faisait l'alphabétisation, et ma grand-mère faisait l'école aux enfants. Et ils étaient tous les deux très engagés. Ma grand-mère a été une des premières créatrices des Mujeres Libres. Et elle était féministe, très, très engagée. Ils étaient très engagés politiquement. Et en fait, mon grand-père est mort de maladie, mais ma grand-mère, ma mère et ma tante étaient en France au moment de la chute de Barcelone. Elles ont été arrêtées par la police et elles sont parties...
La police française.
La police française, puisqu'en fait, ma grand-mère ayant un passeport, normalement, elle n'aurait pas dû être en camp d'internement. Mais les policiers de Sète l'ont arrêté, ils lui ont confisqué son passeport et ils ont été à Clermont-l'Hérault, dans un camp où il n'y avait que des Espagnols. Et donc, où elles sont restées jusqu'en 1940. Le camp a été au moment de la guerre, en fait, de la guerre en France. Ma grand-mère, qui était diplômée, qui était une intellectuelle, elle s'est retrouvée femme de ménage et puis couturière. Et sa devise, c'était « quand on veut, on peut ». Donc, il n'y avait pas beaucoup de place pour la flemme chez nous. Et voilà, et cette histoire est bien sûr très... très 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 présente, en fait. C'est très drôle parce que mon compagnon qui est enseignant a été à l'enterrement du père de son principal de collège qui était on a compris au discours que c'était un anarchiste espagnol, et en fait dans la conversation il est venu à parler de ma grand-mère, et la grand-mère de ce monsieur, de ce proviseur, elle a écrit un livre de souvenirs dans lequel elle parle de ma grand-mère, elle nomme ma grand-mère et elle raconte comment elle s'était rencontrée à Barcelone et ensuite à Clermont-l'Hérault. Et c'était extrêmement émouvant pour moi de lire ça et de voir ressurgir ma grand-mère que j'adorais.
Oui, j'imagine. Moi aussi, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. L'expérience familiale, cette expérience-là, a un impact dans tout ce que je fais, à la fois le protestantisme. On est tous les deux protestants.
Oui.
On est nourris d'une philosophie politique, toi et moi. Et quel est l'impact alors de cette philosophie politique et de ta foi dans ce que tu fais, dans ce que tu as fait ?
Alors, moi je vais distinguer l'éducation protestante de la foi, parce que j'ai eu une éducation protestante très, voilà, très carrée. J'étais à l'école protestante qui était rue Brueys, là où... sont les locaux de cette radio. J'allais à l'école du dimanche, je faisais le scoutisme, etc. Tellement présente qu'elle m'a un peu éloignée. Elle m'a construite sur la droiture, l'honnêteté, des valeurs extrêmement protestantes quand même. Hein. On ne transige pas avec la droiture chez...
Non. En effet.
Voilà. Donc ça, c'est déjà une base. Et c'était un peu... voilà, je me suis quand même pas mal éloignée de ça. La foi, je l'ai trouvée beaucoup plus tard. De façon très abrupte de façon très surprenante et très brutale. Mais... les deux se rejoignent, parce que dans la religion, je suis bien sûr plus proche. En fait, dans la foi, ma foi est plus nourrie par le protestantisme que par d'autres religions. Hein. je vis avec quelqu'un qui est catholique, donc je connais aussi un peu le catholicisme dans lequel je me retrouve moins, évidemment. Mais oui, ça a une grande place, en fait, presque qu'on ne peut pas renier. Je pense que la construction, moi, ma construction, elle s'est faite à la fois sur des valeurs de gauche, parce que la famille du côté de ma mère, c'était vraiment... voilà, on était dans la lutte. Hein, et donc, j'ai cet héritage-là. Qui fait que ma réflexion, elle est nourrie par une histoire de gens qui se sont battus quand même hein, pour la liberté. Ma grand-mère maternelle n'a pu retourner en Espagne qu'après la mort de Franco. C'est-à-dire qu'elle était très âgée. Elle a laissé sa mère qu'elle n'a jamais revue. Ma mère n'a jamais revu sa grand-mère. En fait, c'était... Je ne peux pas voir un film d'Almodovar sans pleurer à chaudes larmes. Je vais au cinéma avec trois paquets de mouchoirs parce que toutes les rues, tous les villages, toutes les expressions, tout voilà, c'est une partie de moi. Et puis le côté du socle protestant, c'est un socle social aussi. Parce que la foi c'est personnel hein. je pense que mais le socle de l'éducation protestante, oui, il est dans se tenir droit, voilà. Et moi je suis c'est quelque chose qui me tient droite, en fait.
Je comprends parfaitement. Je vois mon grand-père, donc Sénat, Hilario Navarro, quand il me parlait, il me disait vraiment ce qui est très important, c'est les livres et l'école. Et je suis devenu, prof. Et aussi, cette idée de la curiosité. Et je voyais l'entraide des compañeros et des compañeras après la défaite, et avec les douleurs, etc. 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, il y avait toujours, tous les mois, la revue de la CNT qui arrivait, des nouvelles des uns et des autres, des combattants, continuaient. Donc il y avait une fraternité.
Et le 1er mai, le pique-nique des anarchistes et ma grand-mère y est allée jusqu'à la fin de ses jours. Et ils étaient tous très, très vieux. Moi, je ne réalisais pas à ce moment-là. Ils montaient dans le bus et c'était... Je ne peux pas avoir un regard sur les réfugiés qui est déconnecté du passé de ma famille. C'est-à-dire que moi, ma mère, elle a été dans un camp quand elle était enfant. Elle avait 6 ans. Mmh. Elle allait à l'école avec un gendarme qui venait la chercher à la porte du camp. Et donc, en fait, oui, la douleur de l'exil, c'est quelque chose qui ne passe jamais.
Ah, je suis d'accord avec toi. Peut-être que mon grand-père était silencieux et donc j'ai hérité aussi ça de lui. Il ne parlait pas de sa douleur, mais elle était présente justement parce qu'il n'en parlait pas. Il est arrivé à la tour de Carole en Ariège. Il pensait aller au Mexique et puis il s'est décidé à aller à Alès. Donc j'entendais cette histoire-là tout gamin et ça me questionnait parce qu'en même temps... tu parlais de foi et d'éducation protestante. Moi, je dirais que la foi, quand même, si elle est personnelle, elle a un effet public.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Je voulais dire que l'expression de la foi... moi, je suis tellement laïque et même laïcarde que je pense que la religion, c'est de l'intime. Par contre, elle nous tient, elle nous conduit et elle nous oblige. Absolument.
Et cette obligation, pour moi, c'était aussi aider, tendre la main, comme d'autres personnes m'ont tendu la main. Et la radio, c'est mettre en avant des personnalités. Être prof, c'est permettre à des adolescents d'ouvrir leur propre chemin, au moins au début. Mmh. Enfin, d'ouvrir, voilà. Et puis, je parlais du théâtre tout à l'heure, texte en cours... voilà, j'avais confondé avec des amis il y a quelques des années, c'était aussi pour faire entendre des jeunes auteurs qui commençaient, des émergents, etc., faire donner la lumière. C'est important. La part du retrait, je vois toi en tant que orthophoniste, tu n'es pas mise en lumière, mais tu as un impact médical.
En tout cas, être dans le soin, absolument, oui, tout à fait. Je pense que être dans le soin avec de l'humanité, je pense qu'on ne peut pas avoir un métier de soin uniquement parce que ça donne de la liberté ou ça rapporte des sous. Être dans le soin, c'est aussi témoigner d'une humanité. Moi, je l'ai extrêmement vécu avec les personnes qui ont des maladies neurodégénératives où, à un moment donné, on lâche prise parce qu'on sait très bien qu'on n'est plus dans le... On ne peut rien récupérer ou on ne peut plus freiner l'évolution, mais on va être dans la présence et que des fois, une main posée sur une autre main, c'est aussi du soin, mais c'est de l'humanité.
Ah oui, même si on l'interdit maintenant dans l'éducation nationale de poser une main sur une main d'adolescent ou d'adolescente, on le fait autrement, par l'aide à accompagner les élèves à réussir au mieux, à faire leur exercice, etc. Parfois on est récompensé, parfois on l'est moins. Et c'est ce qui tient, en tout cas. L'absence de réussite, parfois, quand on est face, on peut être face à une impossibilité de soigner ou face à une impossibilité d'accompagner professoralement. Et ce qui tient après, c'est pour ma part, je ne sais pas pour la tienne, je vais revenir sur la foi, c'est que j'ai donné le meilleur possible et qu'après, ensuite, quelqu'un d'autre, mais un grand U à quelqu'un, s'occupera, prendra en charge. Et ce n'est pas que j'abandonne, c'est que je crois qu'il y a une... Bernanos, c'est magnifique, j'adore Bernanos, parce que c'est l'esthétique de la main tendue. Mmh. Il y a tout le temps une main tendue chez Bernanos.
Ouais, alors, ça pourrait être philosophique la réponse que je te donnerais. Moi, je me méfie beaucoup de l'orgueil. Je pense que je peux être très orgueilleuse et je me méfie beaucoup de l'orgueil dans la main tendue.
C'est la main de Dieu, je voulais dire, c'est la main de
D'accord,
Dieu.
D'accord, parce que notre main tendue, elle doit être très humble. Je pense qu'on ne doit pas avoir l'impression d'être représentant de quelque chose et de le faire pour soi, parce qu'on peut être très vite égoïste dans le voilà. Mais la main tendue, oui, je crois que ça doit être une façon d'être et une façon de vivre. Le pardon aussi, qui est peut-être l'écueil. On est en train de dévier de du faire et de l'agir, mais le pardon, aussi dans la relation du soin ou dans la relation de l'éducation, hein, c'est-à-dire que des fois on donne beaucoup et le retour est complètement dévalorisant en fait. D'un point de vue narcissique, on s'en prend plein la figure hein, quand même. Et cette espèce d'abandon aussi, ou de pardon, mais de fait de ne pas être dans la rancune ou dans la rancœur, c'est aussi une façon d'être que moi, il me semble que j'ai hérité de l'éducation que j'ai eue.
C'est un faire. Je pense que le pardon est actif. Et c'est une action parce que le pardon est accompagné, je pense, de gestes de réconciliation. Parfois, la réconciliation est impossible parce qu'il y a des blessures qui sont tellement importantes et le pardon, voilà, ça peut être compliqué. Mais voilà, en tout cas, je me rends compte dans l'émission, puisqu'il restait quelques secondes, que nous avons vraiment beaucoup de choses en commun. Oui. Et merci pour m'avoir piégé. C'était Le Fil du Fer avec Hélène Bertrand-Féline. À bientôt et merci William pour la technique.
chaussettes rouges et jaunes à tes pois. Et des chaussettes rouges et jaunes à tes pois.